sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un des plus grands personnages de l'histoire que Franck Ferrand convoque cet après-midi au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Le personnage, c'est Alexandre. Alexandre le Grand, peut-être le plus célèbre de tous les conquérants. Mais pour nous le montrer sous un autre jour, et vous allez voir tout à fait différent, le prince Michel de Grèce a eu recours à des moyens qui ne sont pas ceux des historiens ordinaires. Il va nous expliquer ça dans un instant.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Mathieu, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il voudrait connaître l'origine du tabouret de grâce concernant les usages de la cour de France.
Ah, les tabourets de duchesse, ça c'était la passion de Saint-Simon. On y vient effectivement. Pour le moment, je vous propose de faire une expérience assez inédite. Ce n'est pas la vie d'Alexandre que nous allons évoquer, c'est son esprit.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Alexandre reste le plus hardi, le plus fulgurant, le plus romanesque des grands conquérants et de loin. Il vient avant César, Attila, Charlemagne ou Napoléon dans le temps, mais encore dans la gloire. Le jeune roi de Macédoine a quelque chose de plus et qui tient sans doute moralement à son charisme quasi surnaturel et physiquement à sa beauté magnétique. C'est bien simple, il suffit qu'il apparaisse pour qu'Alexandre suscite l'enthousiasme. Les soldats qui combattent sous ses ordres, ou plus exactement sous son impulsion, sont galvanisés par cette présence incroyable qui est la sienne. Les témoins racontent qu'il possédait le don de pousser les gens à se dépasser eux-mêmes. Alexandre arrachait aux foules en délire des cris qui font songer à ce qu'on réserve aujourd'hui aux pop stars planétaires. Sa personnalité si spéciale, il la doit essentiellement à trois êtres, eux-mêmes hors du commun, le grand roi Philippe II de Macédoine, son père, la très sulfureuse Olympia, sa mère, on va en parler longuement dans cette émission, et puis son précepteur, naturellement, le grand philosophe Aristote. Alexandre Grandazzi a souligné la brièveté du passage terrestre de cette comète humaine. De 334 à 323, nous dit-il, 11 années seulement de conquête, de gloire et de sang. 11 années qui changèrent la face du monde. Alexandre le Grand insuffla la culture grecque et l'expansion universelle, donnant naissance à cette civilisation hellénistique qui devait être un jour la base même de l'Empire romain. Sans Alexandre, notre monde d'aujourd'hui ne serait probablement pas ce qu'il est, dit Grandazzi. Comment un tel homme n'aurait-il pas fini par se prendre un peu pour un dieu? Alexandre lui-même aimait à entretenir cette rumeur qui le disait fils de la divinité gréco-égyptienne Zeus Amon. Il est vrai qu'il était si beau. Imaginez un jeune guerrier magnifique, le teint clair, les cheveux longs, couleur blond doré, au reflet cuivré. Ça c'est Plutarque qu'il nous le dit, avec des boucles qui couvrent en partie un front haut et large, et surtout de grands, de très grands yeux bleu-vert. Alexandre, en bon prince grec qu'il est athlétique, il pratique l'équitation dès son plus jeune âge. Il va se révéler, par ailleurs, d'une nature assez artistique d'une certaine manière, sensible en tout cas, rêveuse. Il apprécie les poètes et la musique. Or, si nous avons gardé de lui cette image parfaite, c'est parce qu'il meurt jeune, à 33 ans, en 323 avant notre ère. Alors plutôt que de vous raconter toute sa vie si fulgurante, nous allons y venir à cette vie avec mes invités. Laissez-moi m'attarder d'abord sur la fin, justement, sur ces années aigre-douce marquées par la conquête, un périple militaire sans exemple qui embrasse l'Asie mineure et tout le Proche-Orient jusqu'au désert de Libye, puis traverse l'Iran et l'Afghanistan jusqu'au sous-continent indien, un périple fascinant. Alexandre avait 20 ans quand il est monté sur le trône. À la mort de son père a été assassiné en 336. Il ne souhaitait qu'une chose, se montrer digne des héros d'Homère et de la guerre de Troie, d'Achille surtout, et s'en aller bousculer, pourquoi pas renverser, la plus grande puissance de l'époque, l'Empire Achéménide. Le seul empire devant lequel son père ait jamais dû s'incliner. À quoi ressemble cette Perse achéménide. Vous savez, c'est une de ces grandes civilisations qui se sont un peu éloignées de notre angle de vue. Malheureusement d'ailleurs, civilisation peut-être trop rigide, trop écrasante pour notre époque plus molle. Une civilisation qui n'est plus à la mode et c'est dommage. Je me rappelle avoir passé beaucoup de temps, lorsque j'étais adolescent, dans les salles des antiquités orientales du musée du Louvre, à voir notamment l'extraordinaire frise de Suse qui avait été exhumée par Jeanne et Marcel Dieulafoy, à regarder cette extraordinaire frise des archers, etc., avec les portiques gigantesques, les appâts d'Anna d'au moins 100 immenses colonnes, un univers tout à fait extraordinaire. Eh bien, Alexandre va pénétrer dans ce monde incroyable. Le jeune roi de Macédoine entre dans l'histoire en remportant en 333, ça c'est une date qui n'est pas trop difficile à retenir, en remportant la victoire d'Issos. Issos en Asie mineure, un combat sanglant. Darius III, le grand roi de Perse, le Basileus, le grand roi en grec, s'enfuit en pleine bataille. Selon le récit de Diodore de Sicile, je le cite, Darius, le roi vaincu par la force des armes, abandonnant son arc, son bouclier et son manteau royal, doit s'enfuir et, montant l'un après l'autre ses meilleurs chevaux, cherche à échapper à Alexandre. Alexandre, ce sera le sujet d'une célèbre toile de Lebrun, va s'installer dans le camp de Darius. Il découvre les richesses du grand roi, toutes ces richesses, cette profusion orientale qui était assez étrangère, évidemment, à sa nature et à l'univers grec dont il était lui-même issu. Ainsi donc, dira-t-il, c'est cela être roi. On lui sert un festin magnifique dans la vaisselle d'or de Darius. On lui présente les femmes de la famille du Basileus. Elles sont très belles, sublimement parées. Le conquérant va les traiter avec clémence et magnanimité. Il part pour Damas à la conquête du reste du trésor de Darius. Le grand roi y a laissé ses bagages, des richesses inouïes. Alors on va voir Alexandre prendre possession de la Judée, de la Samarie, il va mettre le siège devant Tyr, un siège qui va durer 7 mois. Et puis, dès que la ville est prise, le voilà qui reprend la route et cette fois, il descend vers l'Égypte. Il est insatiable, ce conquérant, c'est incroyable. Est-ce que cette espèce de course qui le mène à constamment brûler les étapes, à dévorer les contrées qu'il conquiert, est liée à la culpabilité qu'il ressent d'avoir peut-être aidé à assassiner son père ? Ça, nul ne le saura jamais, ou plus exactement, ceux qui le savent sont ceux qui ont recours à des voies extra-historiques. Nous allons y venir dans un instant. Alors après l'épisode égyptien, on va voir Darius revenir vers Alexandre. Ce sera le célèbre affrontement de Gaugamel. On est là à l'est du Tigre. Le général d'Alexandre Parménion propose d'attaquer de nuit et par surprise pour compenser un peu le déséquilibre des forces. Et voilà ce que répond le jeune conquérant. « Je ne veux pas voler la victoire. » Il veut systématiquement attaquer l'ennemi en plein jour et de face d'une certaine manière. On attaquera donc au petit matin. Alors il y aurait 20 épisodes à raconter sur cette célèbre bataille. Le plus fort est peut-être la charge des soldats de Darius dévalant la colline sur des milliers de chars devant cet assaut qui fait trembler la terre, qui soulève des nuées de poussière. La phalange s'écarte et laisse les chars s'enfoncer dans ces lignes. On se jette à ce moment-là sur les auriges, on coupe les jarrets des chevaux, c'est une mêlée affreuse. Il faut imaginer les Perses désarçonnés qui s'accrochent aux jambes des chevaux macédoniens. Débâcle pour Darius et une fois de plus victoire d'Alexandre. Ça sera sans doute son plus grand exploit. Il devient à ce moment-là le maître tout-puissant et le voilà qui s'enfonce encore un peu plus loin dans l'Orient, mais aussi dans le luxe, dans les plaisirs. On va le voir s'habiller à l'oriental, se faire vénérer à l'égal d'un dieu. Il y a quelque chose d'un peu délirant dans cette phase ultime de la vie d'Alexandre. On essaiera de comprendre tout à l'heure à quoi ça peut être lié. Il y a chez lui une véritable tentation de l'Orient, comme aurait pu dire André Malraux. Tout ça aura sans doute raison de son esprit et de sa clairvoyance. Alexandre possède un grand ami, Cléitos, qui lui a sauvé la vie lors d'une autre grande bataille, la bataille du Granic. Or, à l'été 328, au cours d'un banquet sans doute bien arrosé à Samarcande, Cléitos reproche à Alexandre d'appliquer les coutumes barbares, d'oublier d'où il vient, d'oublier les usages macédoniens. Et il va se mettre à vanter devant lui les mérites de son défunt père, Philippe. C'en est trop. Alexandre saisit une lance et il transperce son ami en lui suggérant d'aller rejoindre Philippe. Évidemment, il va immédiatement regretter son geste. En voyant le corps inerte de Kleitos, il tente d'ailleurs de retourner l'arme contre lui. On l'en dissuade, des gardes l'en empêchent. Certains historiens racontent qu'il va refuser de s'alimenter pendant 3 jours. Ses compagnons vont quand même réussir à lui redonner goût à la vie, à lui faire entendre raison. Mais vous voyez bien qu'on est en face d'un personnage qui fait, ce qu'on pourrait appeler nous aujourd'hui avec notre vocabulaire, des crises de paranoïa. Alexandre va quand même aller jusqu'à faire torturer le fils de Parménion, Philotas, pour trouver de quoi accuser son père et pour le faire condamner. Voilà quand même le personnage auquel, dans cette période un peu tardive, on a affaire. Alexandre n'est jamais rassasié de conquêtes. Le voilà maintenant parti à la conquête des Indes. En moins d'un an, son armée est sur l'Indus. Voilà ce que nous dit Pascal Charvet, grand spécialiste de la période. En 327, Alexandre se lance à la conquête de l'Inde. Aux yeux des Grecs, elle représente une terre de légende située aux confins du monde habité. C'est aussi le bout de l'épopée, les soldats harassés refusant d'aller plus loin. Et encore une fois, il va être victorieux. S'il fallait retenir une chose d'Alexandre, à mon avis, ce ne sont pas ses victoires militaires. Ce serait plutôt son caractère, son indépendance d'esprit, sa liberté radicale, son sens de l'individualisme avant l'heure qui fait de lui en pleine antiquité peut-être le premier occidental moderne. Et c'est surtout, au-delà de tout cela, c'est surtout la capacité qu'il a eue de comprendre les nations, de comprendre les pays dont il devenait le conquérant et en quelque sorte d'essayer de les agréger à son empire et d'essayer de s'enrichir de leur culture et de leurs apports. Le voilà qui poursuit toujours sa route. À la fin du printemps 327, il franchit les défilés du Kafiristan, au-delà de la haute vallée d'Hindoukouch, la chaîne de montagnes, des montagnes quand même très hautes, qui culmine à plus de 7000 mètres. Il faut 10 mois pour franchir l'école. Il arrive sur le cours supérieur de l'Indus. En juillet 326, il va affronter les 200 éléphants de combat d'un raja du Pendjab qui s'appelle Poros. Et il conquiert là encore la région. Sauf qu'au bout d'un moment, et on peut le comprendre, ses troupes n'en peuvent plus. Elles sont épuisées par les passages en altitude, laminées par le soleil, par le vent, par toutes ces batailles, essorées par la mousson d'été qui n'a cessé depuis 2 mois. Le roi de Macédoine et de Perse est bien conscient de la fatigue de ses soldats. Il ne va pas insister. Et ça, c'est assez extraordinaire. On va voir Alexandre comme s'il était arrivé lui-même au bout de cette extraordinaire énergie qui, depuis le début, le poussait. On va le voir s'arrêter et faire demi-tour avec cette ultime cérémonie au bord de l'Iphase, qui est un sous-affluent de la rive gauche de l'Indus, comme s'il mettait lui-même le terme à son extraordinaire conquête. En août 326, avant notre ère bien sûr, sont construits 12 grands autels en forme de tours pour commémorer le passage de l'armée d'Occident, pour célébrer la mémoire de son roi, surtout bien sûr à l'époque pour remercier les dieux qui ont permis à cette armée sans cesse accrue d'avancer victorieusement jusque-là. Il va faire sacrifier 12 bœufs, un au pied de chaque autel. Chaque bœuf est sacrifié et consacré par un corps d'armée. Alors pour rejoindre le golfe Persique, Alexandre divise son armée en 3. Son meilleur général, Cratère, va passer par l'Iran oriental avec l'objectif de maintenir les populations. Néarque longe de son côté la côte. Quant à Alexandre, comme d'habitude, avec 12 000 hommes, il se réserve le plus dur. Il traverse ce qu'on appelle aujourd'hui le Baloutchistan pakistanais, qui passe à l'époque pour infranchissable, ce périple absolument incroyable. C'est un exploit inouï qu'il a encore, au prix de souffrances atroces, va relever on pourrait presque dire du prodige. Ça dure des mois, toute cette affaire. On finit par arriver en Iran, et quand les soldats font enfin la jonction, quand les trois armées font la jonction, les trois quarts ne sont plus là, les trois quarts sont morts. Imaginez la marche triomphale de ceux qui ont survécu, qui pendant 7 jours vont faire une sorte de grand cortège bachique, cette fois à la grecque, à la macédonienne. Alexandre est traîné lentement sur un char, il y a 8 chevaux, le char est absolument gigantesque et derrière lui une foule immense. Imaginez ces chariots, couverts de pourpre, d'étoffes brodées, brochées, rebrochées d'or, les proches du roi qui sont là, qui chantent, qui crient la musique, les flûtes, les lyres, les chants. C'est le triomphe d'Alexandre.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, retour avec vous Franck Ferrand à la fin de la vie d'Alexandre le Grand.
Le conquérant avait adopté des pratiques orientales, bien entendu. Il va se marier un certain nombre de fois. Alors, il avait fait un premier mariage avec Barcine, qui était de sang royal. Elle était la fille du général Artabaze. On était là en 333. Et puis, il épousera la fille du satrape de Bactriane, Oxyarthès, qui s'appelle Roxane. C'est celle qui restera dans l'imaginaire collectif comme l'épouse d'Alexandre, princesse d'une rare beauté. Elle sera mise à mort par un autre roi de Macédoine, Cassandros, enfin ça nous entraînerait dans une autre histoire. Et puis au printemps 324, il épouse 2 autres femmes, Statira, qui est la fille aînée de Darius, donc le roi des Perses, et Parysatis, qui est la fille cadette d'Artaxerxès. C'est l'occasion évidemment de fêtes extraordinaires à Suse, avec des banquets absolument inouïs, etc. Les noces de Suse restent dans les mémoires comme une sorte de sommet de magnificence. Il faut imaginer que chacune des 10 000 jeunes filles qui accompagnent les mariés se dirige au son de trompette. Enfin, on est dans cet extraordinaire déploiement de faste que connaissait la Perse antique, bien entendu. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Alexandre va essayer d'imposer les mœurs orientales à des généraux qui les refusent largement. On peut discerner au moins 4 directions dans son action que nos sources peignent en termes trop anecdotiques, estime Paul Goukowski. D'une part, il tenta d'unir les aristocraties macédoniennes et perses par des mariages dont il donna l'exemple en épousant la fille aînée de Darius. Il s'employa d'autre part à renforcer son armée d'éléments nés en Asie. À court terme, il prépara l'incorporation de 20 000 jeunes perses entraînés par leur nouveau satrape, son ancien garde du corps, Peuquestas. S'y ajoutèrent 30 000 jeunes asiatiques choisis en 327-326 et formés aux techniques de combat macédoniennes. À plus long terme, il prévoyait d'enrôler les enfants nés de ces soldats et de leurs concubines asiatiques. Il leur donna le nom d'épigones. Restait le plus difficile, renouveler les Macédoniens. Tant que Cratère était chargé de conduire en Macédoine les vétérans démobilisés, Antipatros recevait l'ordre de rejoindre Babylone avec de jeunes recrues. Enfin, pour asseoir son autorité, Alexandre crut nécessaire de se doter d'un statut surhumain, nous dit Goukowski, exigeant des Grecs en tant que dieu invincible un culte dont quelques exemplaires d'une monnaie, probablement frappée en 323, confirment bien la réalité. Oui, cet homme-là a bien cru qu'il était dieu. Il y a un événement qui va le frapper quasiment à mort, c'est la disparition de son ami et amant Héphestion, qui meurt subitement à Ectabane. On dit qu'Héphestion est mort en plein milieu d'une orgie, et la peine d'Alexandre va faire penser un peu à la peine d'Achille voyant mourir Patrocle. C'est la même histoire. On est d'ailleurs toujours dans cette espèce de célébration permanente de l'Iliade. Il étreint, dit-on, pendant des heures le cadavre de son ami. Il fait couper la chevelure, tondre la crinière de tous les chevaux et de toutes les mules de Perse, dit-on. Il fera même, ça c'est sans doute un peu moins louable, il fera exécuter le médecin qui avait laissé Héphestion exténué assister à la fête où il a trouvé la mort. À Héphestion, il va offrir des funérailles à la hauteur de leur amitié. En 323, Alexandre regagne Babylone. Il ramène le corps de son ami, de son amant. Un feu sacré est allumé. Le corps d'Héphestion est placé sur un bûcher colossal. Dans ces moments-là, il est probable effectivement qu'Alexandre se soit pris lui-même pour un dieu. Alors, il se veut le conquérant de l'Arabie. Il a ouvert une route maritime reliant directement le golfe Persique à l'Égypte. Il va néanmoins, alors qu'il se prépare encore à repartir à l'assaut, on se dit mais ça ne s'arrêtera jamais, il va néanmoins tomber malade. On raconte que ce sont les banquets de funérailles de son ami qui l'ont épuisé. Plutarque, le grand historien Plutarque, raconte que de nombreux signes funestes ont entouré Alexandre, qui était par ailleurs extrêmement superstitieux, qui croyait à tous les signes et qui sans doute a vu sa fin approcher. Il a vu, comme dit Marguerite Yourcenar, se dessiner le profil de sa propre mort. Il sera emporté en quelques jours. On a d'ailleurs le calendrier, l'agenda complet de toute sa maladie et de sa mort. Voilà ce que nous dit le médecin. Le dieu a entendu sa réponse le 28 Daïsios, on est donc le 10 juin. Réponse qui était de ne pas transporter Alexandre dans le sanctuaire. Il serait mieux pour lui qu'il restât là où il était. Les compagnons ont fait connaître cette réponse. Peu de temps après, vers le soir, il est mort. Il est mort sans héritier adulte. Avant sa mort, ses proches lui ont demandé in extremis à qui il laissait son empire, à qui il faudrait désormais obéir. Et sa réponse était bien digne du personnage, au plus fort.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'Alexandre le Grand avec vos invités, le prince Michel de Grèce, écrivain, romancier, écrivain, Stéphane Alix également, écrivain, journaliste, fondateur de l'INRES et du magazine Inexploré, auteur tous les deux des Mystères d'Alexandre le Grand aux éditions Flammarion.
Ah, c'est une drôle de biographie d'Alexandre que nous proposent nos deux auteurs, Michel de Grèce et Stéphane Alix. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. L'ouvrage s'appelle « Les mystères d'Alexandre le Grand ». En vérité, ce sont vos mystères que je voudrais sonder maintenant. Vous avez écrit ce livre avec un spécialiste des phénomènes paranormaux et qui est notamment le directeur de la rédaction de la revue Inexploré, hein, qui parle justement de toutes ces questions parapsychologiques. Stéphane Alix, vous êtes par ailleurs un homme de télévision, le public vous connaît bien et vous avez fait de grandes et très sérieuses enquêtes sur tous ces sujets. Si l'on devait résumer la démarche de Michel de Grèce dans cet ouvrage, comment la résumeriez-vous ? Au départ, il y a les révélations d'un professeur, un grand professeur, alors dont on tait l'identité. C'était un Britannique ?
Oui, alors là, effectivement, on taira son identité. La chose amusante, c'est que l'idée de ce livre est née d'un dîner, pas arrosé du tout, où on a découvert, Michel et moi, que notre héros commun était Alexandre le Grand. Enfin, il l'est pour aussi beaucoup d'autres personnes, j'imagine. Et c'est lors de ce dîner que Michel m'a parlé de cet historien, du travail qu'il avait fait avec lui il y a très longtemps, et de l'intérêt, de l'excitation même qui était née de cette possibilité d'aller consulter une sorte de super sixième sens qui permettrait d'obtenir des informations inconnues et inaccessibles par l'histoire traditionnelle. Moi, par ailleurs, je sais que ces techniques existent, ces techniques sont utilisées dans plein de domaines différents, sont utilisées depuis l'Antiquité. Elles sont utilisées jusqu'à il y a peu d'ailleurs même dans l'armée américaine qui a un service spécialisé sur l'exploitation de ce type de données, donc une sorte de super sixième sens. On parle de voyants, on parle de personnes douées de capacités extrasensorielles qui dans des conditions extrêmement rigoureuses vont être capables d'obtenir des informations.
Donc ce professeur qui par ailleurs était un maître de la discipline historique britannique avait des prédispositions. Vous l'avez rencontré dans quelle circonstances,
écoutez,
Michel de Grèce.
J'étais étudiant à Paris, il y a comme vous imaginez pas mal de temps, et je fréquentais un groupe d'artistes et d'intellectuels un peu internationaux, et il m'a tout de suite passionné parce que sa spécialité était tout de même l'histoire de la Grèce antique. Donc nous avons parlé, puis nous sommes arrivés à Alexandre le Grand, et je lui ai dit ce qui est la base de cette recherche. Je lui ai dit, c'est tout de même bizarre que ce personnage mondialement connu soit tellement mystérieux, qu'on sache en fait très peu sur lui. On connaît les faits, n'est-ce pas, comme vous venez de le rappeler.
On a quelques sources, oui, Diodore de Sicile, Plutarque,
oui,
etc.
Mais toutes ces sources sont postérieures.
Très postérieures.
Alors, il y a eu des sources à l'époque, comme le journal de Ptolémée, dont ces sources que vous venez de citer ont utilisé. Mais en fait, c'est un personnage extrêmement mystérieux, comme très souvent les gens très connus. Et donc, j'avais envie, moi, d'en savoir plus, puisque c'est mon héros. Et ce personnage anglais, cet historien anglais, m'a dit, mais écoutez, il y a d'autres moyens que simplement les archives. Et il m'a dit, ben, posez-moi des questions sur Alexandre. Alors, j'ai commencé tout de suite sur le meurtre du roi,
et bien
son
sûr.
Père, en disant, est-ce qu'il était mêlé ou pas ? Et il a commencé à parler sur le meurtre, décrivant les complots qui étaient derrière, les intrigues qui se développaient, qui se créaient, les participants à ce complot, comme s'il avait vécu, comme s'il le voyait.
Mais alors, vous notiez tout ça.
Je notais entendu. Tout ça, et surtout, vous savez, ce qui m'a frappé, c'est que c'était tellement plausible. Tout avait l'air tellement juste. Alors j'étais tout de même assez fasciné et j'ai continué à lui poser des questions.
Alors sans trop déflorer le livre, tout à l'heure nous évoquerons un certain nombre des épisodes de la vie d'Alexandre, oui. Et nous verrons ce que pensait ce monsieur, oui. Ce qu'il sentait, ce qu'il a vu, ce que l'on peut en tirer. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on fasse le tour, parce que vous admettrez que la démarche n'est tout de même pas classique ni banale.
Non, pas...
J'aimerais qu'on aille au bout de cette démarche. Donc pour résumer, pour bien préciser à nos auditeurs et notamment à ceux qui nous rejoindraient en cours de route, vous avez Michel Degrasse rencontré il y a longtemps ce grand professeur d'histoire qui par ailleurs avait des dons pour la voyance, disons,
hein,
voilà,
il était
britannique.
Oui.
Et qui vous a raconté,
ouais,
la vie d'Alexandre le Grand comme s'il
sur
y était,
questions,
etc., en répondant à vos questions. Vous avez pris des notes, toutes, ouais, ces notes vous les avez gardées pendant longtemps, vous les aviez plus ou moins... Peut-être pas oublié, mais...
Je n'avais jamais oublié l'expérience, parce qu'elle était tout de même
frappante. Sûr, oui.
Mais, si vous voulez, ces notes, voilà, elles étaient dans une caisse oubliée depuis longtemps. Les notes...
C'était des cahiers, en fait, hein, c'est ça?
Oui, non, oui, enfin, vous savez, oui, j'écrivais à l'époque.
Voilà, bon. Voilà. Et vous décidez, avec Stéphane Alix, de ressortir toutes ces notes.
Parce qu'il m'a parlé d'Alexandre, parce que Stéphane m'a manifesté cet intérêt pour Alexandre, et du coup, ça m'a... ressusciter le mien.
C'est-à-dire que, Stéphane Alix, votre héros à vous, c'est aussi Alexandre le Grand?
Mais oui, parce que j'ai beaucoup voyagé, notamment en Afghanistan, dès l'âge de 19 ans, au moment de l'occupation soviétique, je suis retourné énormément. C'est un pays qui est absolument fascinant et dans lequel on sent physiquement cette présence. Je me souviens de vallées absolument perdues ou que j'atteignais après des journées de route, et tout d'un coup vous rencontrez des hommes, des femmes, des enfants, tous blonds avec des yeux bleus, et qui vous disent « descendre d'Iskander ». C'est assez troublant.
Iskander, c'est le nom d'Alexandre.
C'est le nom d'Alexandre. Moi, quand Michel m'a parlé de la première fois de ces notes, j'ai vu immédiatement la possibilité de les vérifier, de les croiser. Parce qu'effectivement, on est dans le subjectif pur, on est dans les déclarations d'un personnage assez mystérieux qui est aujourd'hui décédé. Comment vérifier? Comment savoir si c'était uniquement ces élucubrations ou s'il y a matière à faire quelque chose d'un peu plus construit? Et c'est là où je suis plus intervenu en essayant d'utiliser avec des techniques actuelles, avec d'autres voyants, de voir si ces informations étaient croisables.
Ça, si j'ose dire, c'est le deuxième étage de la fusée. C'est-à-dire qu'à partir de ces premières notes que vous aviez, vous avez continué l'expérience. C'est-à-dire que, pardon, hein, mais l'attitude la plus habituelle dans ce genre de circonstances, ce serait au contraire de revenir à partir des notes, de revenir aux sources, de croiser, etc. Non, non, non. Vous allez en quelque sorte plus loin et vous voyez d'autres voyants, d'autres médiums.
Sur certains points clés, sur certains faits historiques clés, on a tenté l'expérience pour voir si on obtenait des informations similaires ou concordantes avec celles qu'avait obtenues Michel autrefois. Et sur certains points, ça a été extrêmement satisfaisant. C'est ce qui nous a incité à aller en toute confiance dans ces écrits de cet historien.
Michel Degrasse.
Vous savez, je crois vraiment, évidemment, c'est un peu choquant au départ comme idée.
Non, c'est surprenant, choquant.
C'est surprenant.
Peut-être pas.
Mais je pense vraiment que l'histoire, qui est un sujet qui me passionne depuis toujours, on y pénètre non seulement avec les documents et les archives, on y pénètre d'abord par son instinct.
N'est-ce pas?
Et c'est très proche de la démarche que nous avons faite. Je pense qu'on avance dans l'histoire avec l'instinct qui peut être ou pas soutenu par les archives ou par les documents. Pas forcément.
C'est-à-dire que les archives et les documents, ce sont les mêmes pour tout le monde. Mais après, vous avez ce que je pourrais appeler,
oui,
les bons historiens sont ceux qui, justement, ont le flair, ont l'esprit.
Mais oui. Et là, nous avons poussé un peu loin cet instinct, dirons-nous. Mais c'est toujours dans la même direction.
Est-ce que vous vous rappeliez, après toutes ces années,
oui,
la très grande force des propos de votre ami?
Surtout, je me rappelais très bien l'atmosphère. C'est-à-dire, c'était à Paris, c'était dans un rez-de-chaussée pas très grand, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Je pense que c'était l'hiver ou l'automne parce que c'était très gris. C'était un rez-de-chaussée très encombré de tableaux, de meubles, de livres et tout. Et ce personnage assis en face de moi et moi en face de lui, et moi lui posant des questions. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé à Siwa dans l'initiation d'Alexandre au mystère de Amon? Et il partait et on s'était transporté ailleurs. On vivait tout à fait Enfin, moi, je vivais ce qu'il me racontait, oui.
Ce personnage, on ne le nomme pas parce qu'il n'a jamais fait état de ses dons, c'est
ça ? Non, il est décédé. Je pense que je ne l'aurais pas cité si je ne lui avais pas demandé. Comme je ne peux pas, je ne communique pas avec lui, je ne peux pas.
Vous ne communiquez pas avec son esprit. Est-ce que cette démarche est une démarche qui a déjà existé, Stéphane Alix ? Est-ce qu'on a déjà vu des cas comme celui-là ?
Oui, durant le cours de notre travail, j'ai découvert qu'André Malraux l'avait fait lui-même avec un de ses amis, Georges Combes, qui était responsable du Louvre à l'époque. Ils avaient voulu tester l'origine d'une étoffe qu'un marchand irakien proposait à l'acquisition au Louvre. Et comme de très naturel, Malraux raconte qu'avec Georges Combes, ils sont allés voir une voyante de l'époque, lui ont soumis une photo de l'étoffe, et devant leurs yeux assez ébahis, la voyante s'est mise en transe. Et il s'est avéré que la tache qui était sur l'étoffe était d'après elle du sang d'Alexandre le Grand, et Alexandre a pénétré cette voyante. Et Malraux en fait le récit dans les hôtes de passage.
Comment ne pas citer, cher Michel Degrèce, notre ami Yagel Didier, grande médium, et avec laquelle vous avez fait des livres justement sur l'histoire, hein, comme ça, en partant de documents.
Comme chacun sait, Yagel Didier est une très très grande voyante, sinon la meilleure pour moi. Bon. Il y a très longtemps, je dis, écoutez, franchement, c'est assommant de chercher l'avenir, parce que ça n'a aucun intérêt. Ou pourquoi pas chercher dans le passé ?
Retourner vers le passé, quelle bonne idée.
Et je lui ai amené, on a commencé ces expériences il y a 25 ans, je lui ai amené des enveloppes qui contenaient une ou plusieurs photos d'un personnage. Donc l'enveloppe était scellée, donc elle ne voyait pas de qui il s'agissait, elle ne voyait pas les photos. Elle prenait l'enveloppe, la tâtait et partait pendant 2-3 heures en parlant du personnage. Alors c'était tout à fait passionnant. C'est similaire, dirons-nous. Et il y a, je pense, beaucoup de façons de pénétrer dans l'invisible.
Mais je trouve très intéressant d'utiliser la voyance, non pas pour aller explorer le futur, mais pour nous aider à retrouver le passé. C'est une très belle idée. Alors, qu'apprenons-nous dans cet ouvrage, dans les mystères d'Alexandre le Grand ? C'est publié chez Flammarion, je le précise. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau sur Alexandre ? Eh bien ça, c'est ce que nous allons découvrir dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'Alexandre le Grand avec vos invités, le prince Michel Degrèce, écrivain, romancier, historien, et Stéphane Alix, écrivain également, journaliste, fondateur de l'INRES et du magazine Inexploré, auteur tous les deux des Mystères d'Alexandre le Grand aux éditions Flammarion.
Tout à l'heure, Michel Degrèce, vous nous avez mis l'eau à la bouche en parlant de l'assassinat du roi Philippe de Macédoine. C'est le grand, enfin c'est une des grandes énigmes de la vie d'Alexandre. Et évidemment, on est très curieux. Je vous avoue que dès que j'ai reçu votre livre, moi, tout naturellement, c'est ce que j'ai cherché d'abord, avant de le lire.
Oui, parce que donc il a été assassiné d'une façon très théâtrale, en public et tout. Et tout le monde a dit que c'était Alexandre le Grand qui était derrière. On a aussi dit que la femme de Philippe et la mère d'Alexandre, la reine Olympia, y était pour beaucoup parce qu'elle détestait son mari, ce qui était connu. Eh bien, comme ça m'intéressait comme vous, et je ne pense pas du tout que Alexandre ait été mêlé à cette affaire, lui en tout cas pas, et Olympia a presque fait entendre qu'elle était mêlée, alors que c'est faux. C'était presque de la prétention de
ça
dire
lui a donné
oui.
Ça lui a donné un peu de lustre et de pouvoir,
voilà,
peut-être.
Je suis la magicienne qui peut tout, je suis mêlée à l'assassinat de mon mari. Alors que je pense que c'était faux, c'est une intrigue internationale.
On a toujours plus ou moins l'image de relations très conflictuelles entre Alexandre et Philippe, et au contraire quasi fusionnelles entre Alexandre et sa mère, que vous appelez Olympia, c'est tellement plus joli.
C'est le contraire.
Eh bien c'est le contraire, c'est une grande surprise.
Le père et le fils... Bon, se jalousaient, ne s'entendaient pas sur beaucoup de points, mais finalement, il y avait une profonde affection entre l'un et l'autre. Et je pense aussi qu'ils avaient le même but, c'est-à-dire la gloire du royaume de Macédoine, sa prospérité, son agrandissement. Donc, quelque part, si le père était jaloux du fils, tant de même, il le reconnaissait, il s'entendait. Parce que la mère... C'est un drôle de personnage, celle-là. C'est vraiment une magicienne.
C'est
intrigante.
C'est-à-dire qu'elle-même était particulièrement versée. Elle était initiée à toutes sortes de rites. Elle s'inscrivait parfaitement dans ce qu'il y avait de magique dans ce monde antique, Stéphane Alix. Hein,
tout en étant fille de roi.
Fille de roi, oui.
Oui, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est de découvrir, au-delà d'Olympia, l'importance de ces rites d'initiation. En travaillant un peu sur ce sujet de façon connexe à notre livre, j'ai découvert l'importance de ce qu'on appelle les cultes à mystère, notamment dans la Grèce antique.
Ça, hein,
et plutôt que de les voir aujourd'hui comme une sorte de pratique un petit peu théâtrale, j'ai senti, à travers les quelques historiens un peu spécialisés de cette question-là, qu'on avait affaire à des techniques qui étaient utilisées dans la vie quotidienne et qui pouvaient fournir des informations, qui n'étaient pas uniquement quelque chose de simplement théâtral.
Elle prétendait
cette reine... actif. Je parle de quelque chose voilà qui peut agir,
qui existait réellement. Oui. Oui, c'est ça. Elle laissait entendre qu'elle était en lien avec les grands prêtres égyptiens, etc. Qu'il y a un savoir immémorial.
Ce qui est curieux, je pense, Stéphane, que vous êtes d'accord avec moi et vous aussi, Franck, c'est que la Grèce apparaît en tant que civilisation et culte comme quelque chose de très clair,
de rationnel,
de transparent. Les dieux deviennent humains. Ils ont des défauts, les qualités, les physiques d'humains. Oui, il y a ce côté. Mais il y a aussi un autre aspect que vous venez de dire, Stéphane. C'est que l'influence de l'Orient, l'influence de l'Égypte est très, très puissante en Grèce. Et il y a les mystères, comme vous avez cité, qui sont presque tous souterrains, se passent en dessous, dans des cavernes.
Il est curieux que notre monde occidental, notre civilisation, disons moderne, n'ait retenu finalement de la Grèce que cette écume, que les temples, la démocratie, la philosophie, enfin ce qu'il y a précisément de clair, de lumineux, de rationnel, de parfaitement évident et carré,
mais quelque chose de oui.
Et qu'on ait oublié ce qui peut-être était le quotidien des Grecs, qui était infiniment plus enfoui, enraciné dans des mystères et dans des choses nébuleuses.
Oui, oui. L'influence de l'Égypte est partout apparente. C'est vraiment... Mais je pense, vous savez, c'est compréhensible parce qu'on retient ce qui convient. Tout de même, l'Europe est assez rationnelle, il faut bien dire. Donc, comme la Grèce a inventé cette rationalité...
Alors, voilà. Nous avons vu à peu près, parce que vous êtes beaucoup plus détaillé dans le livre, évidemment, les rapports entre Alexandre, sa mère, son père, donc des liens tout à fait...
sympathiques, oui, finalement, malgré le divorce du père qui répudie la mère, qui épouse une jeune fille que, évidemment, Alexandre déteste, mais... Je pense que l'amitié entre le père et l'affection entre le père et le fils est beaucoup plus profonde que ces avatars d'un lien.
Ce qui apparaît aussi dans ce livre, c'est la fragilité d'une certaine manière d'Alexandre. Le personnage est beaucoup plus sensible que tout ce qu'on peut imaginer. On est loin de l'image sans cesse copiée et recopiée de l'espèce de conquérant viriloïde, en fait. C'est un personnage plus subtil.
Mais vous savez, c'est ça qui est passionnant. Je pense que tous les grands hommes sont comme ça. Il y a une solidité, une force, une énergie invraisemblable. Et à côté, il y a la fragilité qui lui rappelle qu'il est un humain. Et en plus, chez lui, ça se complique parce qu'il est dans sa personnalité, dans son caractère, dans son âme, dirais-je. Il a mêlé à un point invraisemblable de force le mal et le bien. Ça a l'air chrétien. La lumière et les ténèbres. Poussé à un point inouï, et les deux s'en mêlent, et ce qui crée évidemment presque un déséquilibre.
C'est ce qu'on appellerait en psychologie un être très polarisé,
oui,
en fait.
Absolument.
Il va très loin dans une forme quasi de sublimité,
absolument,
et en même temps très
absolument
loin dans la noirceur.
Oui, oui,
il va jusqu'à tuer. J'ai raconté l'épisode de Kleitos exprès, mais il y a eu d'autres épisodes. Il était quand même...
massacre épouvantable.
Ça devient à la fin un tyran imprévisible.
Mais alors, le comble, si vous avez... Il a ordonné des massacres épouvantables après la prise de Thèbes en Grèce.
Par exemple.
La prise de Tyr en Égypte, au Liban
au
actuel,
Levant,
au Liban actuel, et en même temps, c'est le conquérant qui reste dans les pays conquis le plus populaire. C'est même le seul conquérant de l'histoire que je connais qui soit tellement populaire aujourd'hui encore.
Les gens sont contents d'avoir été conquis par Alexandre.
Oui. Et on oublie le côté noir, tant mieux d'ailleurs, mais on oublie le côté noir.
Est-ce que la sexualité d'Alexandre, qui évidemment a été au cœur de beaucoup d'ouvrages, et on pense notamment à l'extraordinaire saga de Roger Perfit, hein, qui en a fait des tonnes, si je puis dire, dans les années 70, est-ce que cette sexualité a joué un rôle sur sa vie, sur son caractère, sur son destin, d'une certaine manière? Il aimait les hommes, on peut le dire.
Oui, mais il faut se remettre à l'époque. C'est-à-dire que l'homosexualité au IVe siècle avant Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'homosexualité aujourd'hui pour des raisons d'approche. C'est-à-dire, ce qui est très important, c'est savoir quelle était l'approche des gens du IVe siècle vis-à-vis de l'homosexuel, qui était totalement, je répète, différente d'aujourd'hui. Il faut se remettre dans ce contexte. C'était beaucoup plus tolérant, c'était beaucoup plus accepté, et c'était beaucoup plus, de fait que c'était naturel, c'était moins, comment vous dire, provoquant, dans ce que l'homosexualité parfois a de provoquant. Donc ça passait tout à fait naturellement. Est-ce que sa sexualité a joué? Évidemment, parce qu'elle joue un rôle chez tous les êtres humains. Je ne pense pas dans ses choix que sa vie privée ait joué un rôle. On peut se demander s'il a jamais vraiment, du plus profond de son cœur, aimé qui que ce soit. Était-il amoureux ? Moi aussi, je me la pose. Et je n'ai pas répondu. Je n'ai pas la réponse.
Et votre grand intercesseur non plus, en l'occurrence.
Je ne lui ai pas posé la question.
Il parle d'Héphaestion et de la mort d'Héphaestion, bien entendu, qui a été le début de la fin pour Alexandre.
Je me demande si Héphaestion ne s'est pas laissé mourir de chagrin de voir que justement Alexandre
n'était plus ce qu'il avait été,
c'est-à-dire le héros sans peur et sans reproche. Et quand il a vu Alexandre commencer une sorte de décadence personnelle, se livrer à la débauche, ne plus être contrôlable, ne plus écouter cet homme qu'il aimait profondément. Je pense qu'il s'est laissé mourir, comme le grand mage indien, gréco-indien, en a fait de même. Il s'est suicidé parce que Alexandre ne l'écoutait pas.
Ce qui est assez frappant dans l'ouvrage, c'est que vous arrivez quasiment à expliquer l'énergie du personnage. C'est quand même le grand mystère d'Alexandre. D'où venait cette espèce de capacité à renverser les montagnes.
Exceptionnel.
Là, on la touche du doigt, cette énergie, si je puis dire.
Que vous dire ? C'est justement un des explications et un des intérêts du travail que nous avons fait, d'abord avec cet historien anglais et après avec Stéphane Alix, c'est d'essayer justement de toucher l'intouchable, c'est-à-dire cette énergie. Qu'est-ce qui était le moteur de ce personnage extraordinaire ? Une mission, une foi en soi, mais la foi aussi dans quelque chose, dans l'histoire, dans son destin, dans son rôle, et aussi la conviction qu'il faut aller droit. Il va droit devant lui. Rien ne l'arrête. Aucun obstacle.
Est-ce que vous me permettriez de tirer une conclusion qui n'est pas dans le livre,
oui,
mais qui m'est venue comme une évidence en lisant le livre?
Oui.
J'ai l'impression que ce personnage, cet homme, était intimement nourri d'une certaine culture. Alors, on a beaucoup mis en avant Aristote et l'enseignement d'Aristote. Je pense que c'est pas Aristote, en l'occurrence. C'est plutôt Homère. Eh bien, voilà. C'est comme s'il avait voulu, avec les moyens qui étaient les siens, qui sont ceux quand même d'un jeune roi, dans un pays en pleine efflorescence, comme s'il avait voulu traduire l'Iliade dans la réalité, en quelque sorte, et vivre pleinement ce qu'avait vécu Achille, en quelque sorte.
Vous avez tout à fait raison que c'était un des moteurs d'Alexandre. Je ne